Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bienvenue si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, toujours de Roland Garros, le journal dans quelques secondes avec Isabelle Millet. 19h10, la carte blanche de Philippe Besson. 19h15, le club des idées. Comment préserver la santé mentale des grands champions? On en parlera avec nos invités en évoquant aussi la dépression de certains. Alors champions, oui, mais comment garder le moral et la tête froide? Ce sera le débat du club des idées. Et puis 19h45, notre rendez-vous quotidien de Roland Garros pendant la quinzaine. Service Pioline avec l'immense Cédric Pioline, les résultats, les infos coulisses et les insolites du jour pour tout savoir sur le tournoi. D'abord le journal avec Isabelle. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
La situation sanitaire aujourd'hui, elle mérite de la vigilance, mais elle n'est pas inquiétante au point de ne pas mettre en œuvre la stratégie de déconfinement.
Dans les Landes, où 29 personnes ont été contaminées par le variant indien, les autorités appellent à la vigilance, mais pas de panique. Les dépistages et vaccinations vont être renforcés dans les prochaines semaines. La PMA pour toutes, le projet de loi bioéthique examiné pour la troisième fois. Il devrait être adopté malgré l'opposition d'une partie de la droite. Le début du procès de quatre hommes soupçonnés de complicité dans l'assassinat du policier Xavier Jugelet en avril 2017 sur les Champs-Élysées à Paris. Le principal accusé nie en bloc. Le grand retour des cigognes en Alsace. C'est une bonne nouvelle, elles étaient en voie de disparition il n'y a pas si longtemps. Et puis Roland Garros, Rafael Nadal sur les cours en ce moment. Il a remporté le premier set face à l'Italien Sinner et il se balade dans le deuxième. La météo, Anissa Haddadi, vous êtes avec nous en direct.
Oui, avec du beau temps, Isabelle, demain sur l'ensemble du pays, sauf à l'est encore, comme aujourd'hui, des Alpes à la Méditerranée. Nous aurons un risque orageux assez important, notamment en montagne. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était un territoire jusque-là plutôt épargné par l'épidémie de Covid. Depuis vendredi, le département des Landes focalise l'attention des autorités sanitaires depuis l'apparition de plusieurs cas de variants indiens, que l'on appelle désormais le variant Delta. Benjamin Péter, la préfète des Landes, s'est exprimée cet après-midi. Elle appelle à la vigilance, mais elle estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
Oui, parce qu'il y a bien 29 cas confirmés de variants indiens répartis sur 6 communautés de communes différentes du département. C'est donc tout le territoire qui est concerné. L'autre indicateur qu'il surveille, c'est le taux d'incidence qui lui aussi entre 80 et 100 depuis quelques jours et dont la tendance est plutôt à la hausse. Mais la préfète Cécile Bigot de Kayser se veut plutôt rassurante.
La situation sanitaire aujourd'hui, elle mérite de la vigilance, mais elle n'est pas inquiétante au point de ne pas mettre en œuvre la stratégie de déconfinement. Au contraire, nous allons continuer, comme partout, à passer le 9 juin prochain cette nouvelle étape de déconfinement, mais en appelant chacun à être prudent.
Alors ce qu'on sait, c'est que ces personnes contaminées vont bien. Ce sont en majorité des jeunes, aucune n'est en réanimation. Deux d'entre elles avaient déjà été vaccinées une première fois et une seule avait reçu les deux doses, mais quasiment le même jour que sa contamination. Alors qu'on rappelle qu'il faut 15 jours après la seconde injection pour que le vaccin soit efficace. Pour l'ARS, ça ne remet donc pas du tout en cause le schéma vaccinal. Il va même s'intensifier dans les prochains jours. Le dépistage va lui également être renforcé avec plus de séquençage pour repérer le variant indien. La préfecture et l'ARS qui invitent par ailleurs à la vigilance de chacun et incitent les habitants à se faire vacciner pour limiter la propagation.
Benjamin Péter dans les Landes pour Europe 1. Le projet de loi bioéthique de retour pour la troisième fois à l'Assemblée nationale avec sa proposition phare, l'ouverture de la PMA pour toutes, promesse du candidat Macron. Le moment est venu, les couples de femmes peuvent se marier, adopter et élever des enfants. Comment continuer de leur dénier le droit à la procréation, a déclaré tout à l'heure le rapporteur général de cette loi, Jean-Louis Touraine. Une partie de la droite veut faire barrage à ce projet. Une dizaine de députés LR ont même déposé plus de 1500 amendements. Parmi eux, Anne-Laure Blin, elle est députée du Maine-et-Loire.
Ce que je dis, c'est que biologiquement, et tout le monde le sait, c'est une réalité biologique, un enfant ne peut être créé que par des gamètes mâles et des gamètes femelles, voilà, donc par un homme et par une femme. Dans ce texte, il est prévu que juridiquement, on gomme totalement la filiation paternelle pour ne reconnaître que deux filiations, une filiation maternelle et une deuxième filiation maternelle. Donc c'est là où on monte un nouveau projet de société qui est complètement vicié et qui annihile totalement les réalités biologiques. Nous, à titre des députés Les Républicains, nous sommes opposés à ce texte. Donc nous avons un certain nombre d'amendements aujourd'hui, au moment de la lecture dans l'hémicycle, pour lutter contre les effets néfastes de ce texte. Donc effectivement, nous sommes plutôt opposés.
Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, elle était au micro européen d'Alexis de la Fontaine. Les opposants de la Manif pour tous ont prévu de se réunir aux abords de l'Assemblée nationale ce soir et demain. Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va porter plainte après une vidéo du youtubeur d'extrême droite Papacito.
Oui, vidéo qui, d'après le leader de la France insoumise, serait un appel au meurtre contre les insoumis. Le youtubeur met en effet en scène l'assassinat d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Une vidéo qui intervient en tout cas au lendemain d'un dimanche de polémique déclenché par les propos du candidat à la présidentielle liant terrorisme et élections. Jean-Luc Mélenchon dénonce une odieuse manipulation de ses paroles.
Oui, et hasard du calendrier, c'était l'ouverture aujourd'hui du procès. On s'en souvient de l'assassinat du policier Xavier Jugelet, abattu en 2017 sur les Champs-Élysées à Paris.
Quatre personnes comparaissent soupçonnées d'avoir aidé le meurtrier à s'armer. Un meurtrier qui avait été abattu par les forces de l'ordre. Cet après-midi, la cour d'assises spéciale s'est penchée notamment sur la personnalité du principal accusé, le seul à être poursuivi pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. L'occasion de l'entendre s'exprimer, Justin Morin.
Oui, gilet noir sur un t-shirt gris, debout. Il a d'abord tenu à rendre hommage à Xavier Jugelet, le policier tué sur les Champs-Élysées. Propos très mal perçus par les proches des victimes. L'une des parties civiles indignée s'est même manifestée, mais le président de la cour d'assises a rapidement fait revenir le calme. Le principal accusé persiste. « Je n'ai rien à voir avec cette vente d'armes, ni de près ni de loin. » L'enquête a conclu qu'il ne pouvait pas ignorer les motivations terroristes de l'assaillant. Ce sera l'un des enjeux de ces près de deux semaines de procès. Son avocate Clarisse Serre estime qu'il n'a pas le profil n'ayant jamais été signalé comme radicalisé.
Ce qui se pose comme question, c'est la circulation des armes sur le territoire français. Ça, on est tous d'accord. En revanche, de dire qu'il en avait connaissance, il faut en rapporter la preuve. C'est un profil qui interroge également sur la volonté de vouloir happer parce qu'il y a un souci, un policier est mort et qu'on a le sentiment qu'on veut absolument que quelqu'un paye pour la mort de ce policier.
Le principal accusé encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Les trois autres accusés jusqu'à 10 ans de prison.
Justin Morin qui suit ce procès pour Europe 1 devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 19h06 dans quelques secondes la suite du journal. On n'a jamais vu autant de cigognes en Alsace.
Et oui, et puis des nouvelles de Raphaël Nadal. Un peu bousculé dans le premier set par l'Italien Sinner. L'Espagnol domine dans le second.
A tout de suite. 19h07, la suite de votre journal avec ce constat. Les cigognes blanches n'ont jamais été aussi nombreuses en France. Expliquez-nous.
Oui, c'est la Ligue de protection des oiseaux qui, chaque année, effectue un comptage. Et c'est important parce que c'est une espèce qui était en voie de disparition. La cigogne a même frôlé l'extinction dans les années 70. D'où la joie d'Yves Muller. Il est le président de la LPO d'Alsace.
La population n'a jamais été aussi nombreuse. La cigogne avait failli disparaître en Alsace. En 1974, il restait 9 couples. Il y a eu la politique de renforcement de population et ça a très bien marché puisqu'en l'an 2000, on était arrivé à 250 couples nicheurs. On a continué à élever des oiseaux et à les relâcher, si bien qu'actuellement, on doit être autour de 1200 couples nicheurs en Alsace. C'est vraiment un record. Les données historiques qu'on a tablées sur une population d'environ 150-160 couples dans les années 1940-1950 et c'est le maximum qu'on ait dénombré en Alsace. Ce qui sera important pour que la population puisse se maintenir, c'est ne pas transformer les prairies humides en champs de maïs, notamment. La cigogne se nourrit dans les prairies humides. Elle a besoin donc de ce type de milieu pour trouver son alimentation, donc pour élever ses jeunes, pour les nourrir. Et ce sera l'élément déterminant dans les prochaines années pour subsister.
Yves Muller, le président de la Ligue de protection des oiseaux d'Alsace. Il était au micro Europe 1 de Virginie Salmen. On vous le disait tout à l'heure, le patron d'Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin, Jeff Bezos, annonce qu'il va se joindre au premier voyage de tourisme dans l'espace avec sa société donc et avec son frère. Départ le 20 juillet.
Et on suivra ça évidemment en direct sur Europe 1. Allez, on prend tout de suite des nouvelles de Raphaël Nadal du côté de Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Axel May, il a eu un petit coup de mou à Nadal dans le premier set, mais ça n'a pas duré longtemps.
Non, puisqu'il était mené 5-4, service à suivre pour Sinner. Donc si jamais Sinner remportait son jeu de service, il remportait le set. Et finalement, Nadal a su augmenter, comme il sait souvent le faire, son niveau de jeu pour s'imposer 7-5 en un peu plus d'une heure de jeu dans le premier set. Et dans le deuxième set, c'était bien parti pour Nadal qui menait 3-0. Et puis Sinner est là aussi revenu, là ça s'est inversé, dans la partie, le 19e mondial, le longiligne italien qui vient du nord de l'Italie avec ses cheveux roux, blond vénitien sous sa casquette et il n'est plus mené que 4-3 Sinner et c'est lui qui est au service, autrement dit il a débreaké, il est en train d'essayer de revenir à égalité avec Raphaël Nadal. Et puis je terminerai juste pour vous dire qu'on en sait plus, vous savez, sur la blessure de Lorenzo Muzzetti qui était opposé à Djokovic. Il a expliqué qu'en fait s'il a abandonné son match, il n'était pas blessé, il avait simplement, le jeune italien, des crampes et qu'il n'avait plus rien à montrer au public et qu'il préférait donc se retirer en étant forfait pour la fin du match.
Ça peut faire très mal des crampes. Merci beaucoup Axel. Mais en direct de Roland-Garros.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS pour jouer.
Ça sent le vécu, ça, sur l'écran.
Oui, c'est vrai.
Isabelle. Merci Isabelle, on vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. Allez, un petit coup d'œil à la météo, avec Anissa Dali qui nous a retrouvés. Nous annonce un temps absolument splendide, mais avec un risque d'orage demain.
Et à l'est, comme aujourd'hui, de l'Alsace jusqu'aux Alpes, le temps devient instable avec des orages, surtout en montagne, au bord de la Méditerranée, parce que ce risque orageux va descendre jusqu'en Corse. Alors, au bord de la Méditerranée, les nuages vont bourgeonner au fil des heures et les averses arrivent pour vous, malheureusement, demain après-midi. Sur les côtes de la Manche, après la dissipation des nuages, c'est le soleil qui s'impose. Comme sur les trois quarts du pays. C'est vrai que demain, nous aurons encore une très belle journée. Côté température, ça va grimper doucement. On s'approche des valeurs de saison, même des valeurs estivales. Avec 8 degrés à Aurillac demain matin, 12 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris et 20 à Perpignan. Dans l'après-midi, nous aurons 20 degrés pour Belfort, 23 à Annecy, 24 à Biarritz et Strasbourg, 27 à Paris, 29 pour Bordeaux et 32 degrés demain après-midi à Perpignan.
32 degrés, bah dites-moi.
Il va faire chaud et ça va grimper encore. Hein,
ça va grimper encore pendant les prochains jours. Bien, merci Anissa, on vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. 19h11, vous restez avec nous dans quelques secondes, le Club des Idées. On s'intéressera, tiens, à la santé mentale des grands champions ici en direct de Roland-Garros. Le burn-out, et oui, ça arrive aussi aux grands sportifs. D'abord, la carte blanche signée ce soir, Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe Besson.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous avez décidé de vous lâcher. Comme cela vous arrive parfois, vous vouliez nous livrer vos étonnements du moment, vos coups de cœur, vos coups de griffe, qui sont aussi vos impressions sur l'époque.
Mais oui Julien, car il se trouve que ces derniers jours, j'ai eu la chance d'aller me balader en France, en Lorraine, en Normandie, en Charente. J'ai aussi marché dans les rues de Paris. Et partout, j'ai vu des gens aux terrasses des cafés, joyeux, bruyants, heureux de se retrouver, de trinquer, de se raconter des histoires, de tenter de rattraper le temps perdu. Je les ai entendus échanger des anecdotes sur la vaccination, comparer leurs jugements sur la performance de Benzema, évoquer de possibles vacances pour l'été qui s'annonce. Dans une librairie, on m'a expliqué que des jeunes dépensaient 300 euros de leur passe culture pour acheter des livres. Au mode d'aventure des cinémas, j'ai vu de nouvelles affiches, comme autant de promesses, et devant les magasins, de longues files d'attente, parce que beaucoup avaient envie de se faire plaisir ou de faire des cadeaux à leurs proches. Et en dépit des orages, il m'a semblé que tous savouraient la douceur enfin revenue.
La France puis, de Raymond Depardon, ce...
Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai fait une bêtise, figurez-vous, Julien. J'ai fait une bêtise, j'ai regardé les actualités, comme disait ma grand-mère, et je suis allé fureter sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai découvert que la France est à feu et à sang, qu'elle a littéralement sombré dans la barbarie, dans l'hyper-violence, puisque des faits divers se produisent visiblement toutes les heures, à croire d'ailleurs qu'il s'en était jamais produit avant. J'ai découvert que sur des plateaux ou en quelques clics, on tient des procès expéditifs, on désigne des coupables à la vindicte populaire, on lance des chasses à l'homme, peu importe qu'on se trompe. J'ai découvert que nous sommes au bord de la guerre civile, des essayistes ayant pignon sur rue, et des spécialistes de tout nous l'expliquent sur un ton sans réplique. J'ai découvert aussi que le grand remplacement a commencé, que l'homme blanc est presque en voie d'extinction, que des hordes de migrants, tous délinquants, ont submergé notre beau pays. J'ai découvert enfin qu'on nous a inoculé des puces en nous administrant le vaccin contre le Covid, et j'ai entendu des harangueurs de foule réclamer sur une estrade la mort d'un ministre de la Santé sans que ça n'émeuve grand monde. Alors j'ai appelé ma mère, qui a 75 ans, pour la supplier...
Toujours appeler sa maman quand on a un doute.
Dans ces cas-là, toujours, c'est un réflexe qui est vital. Donc je l'ai appelé pour la supplier de se barricader à l'abri des hordes de sauvages, vous l'avez compris, de surveiller également une éventuelle métamorphose à la suite d'une manipulation génétique, et elle m'a demandé si j'étais dans mon état normal. Alors je me suis ainsi rendu compte qu'il peut exister une légère différence entre ce qu'on nous raconte et ce que les gens vivent, que les vociférants des petits écrans ne sont peut-être que les nouveaux prophètes de malheur, des Nostradamus 2.0 qui nous annoncent la fin du monde, parce qu'il faut au moins ça pour qu'on s'intéresse à eux. Et je me suis dit que si un hurluberlu avait l'idée de venir nous expliquer que la Terre est plate ou que des aliens nous ont envahis, eh ben on lui donnerait immanquablement du temps d'antenne, parce que tout de même, ce sont des théories intéressantes qui méritent qu'on en débatte, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, à la fin, on organiserait un vote en ligne pour savoir si les gens ont été convaincus, et une partie le serait, signe que tout ça devait être pris au sérieux. Dans la foulée, je me suis souvenu de la phrase de Jean-Luc Godard, « L'objectivité à la télévision, c'est 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs », et j'ai frémi un peu. Alors j'ai éteint tous les écrans et je me suis retourné dans la vraie vie. Je me suis installé à mon tour à la terrasse d'un café avec des amis. Nous avons parlé de choses idiotes et douces. Nous avons rigolé un bon coup en levant nos bières. Nous avons fait des projets. Nous nous sommes mélangés à d'autres qui ne nous ressemblaient pas. Et nous avons trouvé des choses à nous dire. Et nous avons cru, pauvres de nous, que la vie pouvait être belle.
Bien. Merci pour cette carte blanche du lundi, Philippe Besson.
Oui. Merci à vous.
Quand vous vous éloignez du studio d'Europe 1 quelques jours, vous revenez avec... avec des idées, une vision. C'est intéressant. Merci à vous, en tout cas. Merci. Vous restez avec nous, 19h15, dans quelques instants, le Club des idées. On va parler donc des sportifs. Burn-out chez les sportifs. Oui, oui, vous allez voir, ça se multiplie. Alors, s'occuperont trop du physique et pas assez du mental. On en parle avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1, en direct de Roland-Garros.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées, on s'intéresse donc au burn-out de nos champions, toujours ici en direct de Roland-Garros, qui a vu la numéro 2 mondiale de tennis, Naomi Osaka, refuser de parler à la presse, puis quitter le tournoi, expliquant qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété. C'est loin d'être la seule, dit-on. Alors, comment gérer le stress et la compétition quand on est au top mondial? Quelle est la réalité de ce stress et de ces angoisses qui peuvent être destructrices, dit-on, pour les sportifs et les sportives? Alors, comment s'y prépare-t-on aussi? On en parle ce soir avec nos invités, notamment Stéphane Clèche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coach professionnel et préparateur précisément de ces grands sportifs. On en parlera avec vous de cette préparation importante. On en parle aussi avec Élise Encart. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité psychologie du sport à l'INSEP. C'est l'Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. Et puis on en parle également avec Marie-Laure Brunet. Bonsoir. Vous êtes biathlète. Bonsoir. À la retraite maintenant, double médaillée olympique et aujourd'hui coach et préparatrice. Et vous avez, je crois, été vous-même victime d'un malaise brutal au JO de Sochi. En 2014, comment avez-vous vécu d'abord ce moment?
Oui, tout à fait. J'ai connu le burn-out, c'était sur la fin de ma carrière, mais je ne savais pas encore que ça serait la fin. En fait, ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'avais des signaux, mais que je ne voulais pas reconnaître et identifier. Oui. Parce que j'étais tellement focalisée sur mon objectif que c'était trop difficile pour moi de m'avouer que j'étais vraiment plus à l'équilibre dans ma vie.
Mais qu'est-ce qui était dur? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Le burn-out, c'est comme le surentraînement, non, c'est un mot fourre-tout, mais à la base, c'est vraiment parti d'un déséquilibre dans ma vie personnelle et du coup professionnelle de sportive, que j'ai pas forcément identifié, que j'ai pu identifier avec du recul. Et à ce moment-là, en fait, j'avais, des difficultés à me rendre compte à quel point, en fait, je m'installais dans une fatigue chronique qui commence peut-être par le mental, oui, et après qui s'installe sur le plan physique. Donc alors, ça s'est traduit sur un malaise pendant les Jeux de Sochi où mon corps m'a dit stop.
Et là, vous êtes dit c'est fini, c'est le moment d'arrêter?
Oh non, ça a pris un peu plus de temps que ça. Il m'a fallu 3 mois pour considérer la question. Déjà, retrouver de la lucidité mentale aussi. Parce que quand on est dans ces états de fatigue chronique et de surmenage, c'est difficile d'avoir de la lucidité et prendre du recul. Et au bout de 3 mois, j'ai vraiment senti au fond de mes tripes qu'il était temps pour moi de quitter le sport de haut niveau et de mourir à autre chose.
Bien. Alors vous restez avec nous, évidemment, on va continuer d'en parler. Le coup de tonnerre est donc venu la semaine dernière de Naomi Osaka, numéro 2 mondial de tennis, qui a refusé de répondre aux journalistes en conférence de presse, et puis forcée par la fédération et les instances dirigeantes du tennis, elle a préféré partir du tournoi plutôt que de continuer. Écoutez la réaction avant d'en parler du patron de la Fédération française de tennis.
Nous restons très attentifs au bien-être de tous les athlètes et nous engageons à continuer d'améliorer tous les aspects de l'expérience des joueuses et des joueurs dans notre tournoi.
Bien. Alors, il a été dit après Stéphane Clèche que la joueuse souffrait de problèmes de stress, de fragilité mentale, d'anxiété, d'angoisse. C'est quelque chose d'inédit. En tout cas, un départ comme ça pour refus de parler à la presse, on n'avait jamais vu ça ici à Roland-Garros.
C'est une compétence particulière. Tout le monde n'est pas à même de prendre la parole en public. Je pense que ça, c'est valable pour tout à chacun. C'est un exercice qui est très particulier et moi ce que j'observe dans les accompagnements que je peux mettre en place avec les sportifs et aussi les entraîneurs, c'est que il y a un vrai sujet sur la communication, notamment auprès des sportifs qui sont souvent sur des rails depuis le plus jeune âge,
oui,
et qui évoluent dans ce que j'appelle moi des cadres autoritaires où il n'y a pas vraiment de place pour la parole, où on ne s'autorise pas, c'est souvent aussi personnel de la part du sportif, oui, ils ne s'autorisent pas à parler, ils font.
Donc, alors moi, un peu naïvement, j'avais le sentiment que c'était plutôt l'inverse, que maintenant, dès le plus jeune âge, il y avait des coachs pour aider à parler, prendre la parole, savoir millimétrer un peu son discours, ne pas faire d'écart de langage, ne pas déraper. J'avais le sentiment que tout ça était plutôt bien cadré. Quand on voit les sportifs prendre la parole, on a plutôt l'impression que c'est plutôt mieux qu'il y a 30 ans.
C'est sans doute mieux. C'est en cours de déploiement. On part, je pense que le déclenchement a été assez récent, mine de rien. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui fonctionnent avec de la bonne volonté locale. C'est l'environnement proche, c'est les parents, c'est les amis. Et ce n'est pas forcément des professionnels qui les rendent aguerris à ce genre d'exercice.
Il y a plus de pression aujourd'hui, Élise Ancar, vous diriez ça pour les sportifs et les championnes ?
Il y a la médiatisation qui est plus importante. Les réseaux sociaux, c'est nouveau.
Oui.
Et, enfin, c'est nouveau, ça commence à durer, mais ça rajoute une donne supplémentaire. Oui.
Enfin, Bjork, Noah, Connors, pour parler du tennis, et puis après, on va élargir aux autres sports. C'était quand même des sportifs et des sportives. On pense aux Françaises aussi, qui étaient très, très exposées, qui avaient déjà une surmédiatisation. C'était des stars, déjà, à l'époque. Ça ne fonctionnait pas de la même manière.
En fait, la question, c'est... est-ce qu'ils ont plus de pression aujourd'hui ?
Oui.
Je ne pense pas. En revanche, la...
Alors, on en parle plus aujourd'hui ?
Je pense qu'on en parle plus aujourd'hui. Et c'est plutôt très intéressant parce qu'effectivement, la dimension de la santé psychologique et mentale des sportifs, elle n'est pas forcément mise à sa juste place.
Oui.
Donc c'est plutôt une bonne occasion que nous a donnée cette grande joueuse de tennis d'en parler.
Stéphane Clèche, c'est une... C'est quelque chose qui arrive souvent, le burn-out des sportifs, comme ça, de devoir arrêter, non pas parce que le corps ou parce que on ne suit plus en compétition, mais parce que là-haut, y a quelque chose qui se déconnecte.
Alors, le burn-out, il est connu. Il y avait une étude qui avait été faite qui disait que quasiment un tiers des footballeurs professionnels étaient victimes de burn-out.
Un tiers des footballeurs professionnels.
Donc, c'est pas rien, mine de rien. C'est un travail, alors que on peut envisager le sport comme un travail. C'est un travail particulièrement exigeant qui demande beaucoup d'investissement. Donc, on comprend effectivement qu'il y a une usure et une fatigue mentale et physique. Ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y a eu une prise de conscience parce qu'il y a eu une rupture dans les habitudes, dans les routines. En ce moment, j'ai un petit peu l'impression d'accompagner des athlètes, parce que ça se multiplie dans les cas que j'accompagne, d'accompagner des athlètes vers la sortie. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de confinement, certains ont pris conscience qu'on pouvait ne pas souffrir, parce que la douleur fait partie aussi du quotidien des sportifs, et que cet investissement, finalement, il avait un coût. Et quand on s'arrête, on prend conscience du coup.
Oui. Y a un sportif, vous parliez de footballeur, il y a un cas très emblématique, hein, c'est Paul Gascoigne, l'ex-footballeur qui a aujourd'hui 54 ans, 57 fois international avec l'équipe d'Angleterre, grand joueur, qui l'a conduit en demi-finale du Mondial 90, qui souffre d'alcoolisme et de dépression depuis maintenant des années. Il n'a jamais réussi à se remettre de la fin de carrière.
Tout à l'heure, vous parliez de Bjorg, de McEnroe, et maintenant Gascoigne, c'est ce qu'on appelle des forts tempéraments. C'est aussi des personnes qui ont, des sportifs, qui ont construit leur image sur leur personnalité. Mmh. Gascoigne, en son temps, c'était quand même le champion des coups de gueule aussi sur le terrain, des comportements un peu excessifs. Donc voilà, après, est-ce qu'il a le travers aussi de ce qu'il est foncièrement dans sa vie privée ? Est-ce que c'est toujours difficile de faire la part des choses entre l'image sportive et l'image personnelle qu'on a dans le quotidien.
Bien, vous restez avec nous, on verra comment les sportifs aussi se préparent à cette dimension psychologique, avec vous notamment et vos beaux conseils. 19h26, à tout de suite avec nos invités.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
19h30, la suite du débat du Club des Idées. Ce soir, on continue de s'intéresser au burn-out de nos champions, toujours ici en direct de la Porte d'Auteuil pour cette quinzaine de Roland Garros. Alors, il y a un champion qui a admis, un grand champion qui a admis souffrir de dépression. C'est le plus grand nageur de l'histoire, c'est l'Américain Michael Phelps, qui a reconnu avoir des épisodes dépressifs. Alors pourtant, il a une collection de médailles absolument incroyable, 28 médailles olympiques, 23 or ramassés entre Sydney 2000 et Rio 2016. Et puis après Londres, en 2012, il avait passé des jours enfermé dans une chambre, seul. C'était sa plus grave dépression. Il a d'ailleurs fait un documentaire sur cette question de la dépression. Ça s'appelle « Le poids de l'or ». Il l'a produit et ça a été diffusé sur la chaîne américaine HBO. Je vous propose d'en découvrir un court extrait.
We're just so lost. A good 80%, maybe more, go through some kind of post-Olympic depression.
It's gold, and then what?
I didn't develop outside interests.
I thought of myself as just a swimmer.
Voilà, c'est un échange avec le patineur de vitesse Apollo Ohno, avec la patineuse artistique Sacha Cohen. Il dit, Michael Phelps, 80% ou plus des athlètes souffrant de dépression post-olympique. Elle lui répond, on décroche l'or et après. Et puis Sacha Cohen lui dit, je ne m'intéressais plus à rien d'autre. Je ne peux plus voir depuis un suicide de plus, répond Michael Phelps. C'est un court échange, mais le documentaire est très très fort. Vous êtes toujours avec nous, Stéphane Clèche. Vous êtes coach professionnel et préparateur sportif. Comment on prépare ces grands sportifs, d'abord à la pression de l'instant, et puis à la pression de perdre aussi, et de gagner, et puis au monde d'après, quand tout s'arrête.
Perdre ou gagner, les deux ont un enjeu. Quand on perd, c'est finalement on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé, donc il y a une frustration à gérer, très lourde pour certains. Mais quand on gagne, quand on s'est fixé un objectif haut, comme un titre olympique, oui. par exemple, on se pose la question du sens et après.
Oui.
Qu'est-ce que je fais
et sur quoi je me relance. En somme.
Une sorte de vertige, et puis aussi, c'est le vide qui suit. C'est-à-dire qu'on est animé pendant des années, pendant une longue durée, sur un objectif important, symboliquement fort. Et une fois qu'on l'a autour du cou, on savoure le plaisir sur le moment, mais il y en a beaucoup qui se posent de vraies questions de fond. C'est tout ça, pourquoi finalement ?
Oui. Vous avez ressenti, Marie-Laure Brunet, biathlète, un double médaillé olympique, vous avez ressenti ce vide de l'après ?
Je ne l'ai pas ressenti sur l'après-Jeux olympiques, en tout cas ma première participation où j'ai décroché mes deux médailles olympiques, parce que très rapidement, j'étais tournée vers les prochains objectifs. Par contre, je l'ai clairement ressenti lors de mon arrêt de carrière en 2014. Et là, oui, c'est vraiment... j'entendais parler de petite mort, mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce qu'effectivement, notre vie a été rythmée, conditionnée par l'objectif, par quelque chose qui nous anime. Et on mettait, en tout cas, moi, je mettais toute ma passion et mon temps là-dedans. Et d'un coup, c'est qu'est-ce qui va se passer après ?
Élise Ancard, vous êtes justement responsable de l'unité psychologique du sport à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, qui est en train de mettre en place un programme justement qui a été recommandé par le Comité international olympique pour détecter de potentiels troubles de la santé mentale et prévenir les risques de détresse psychologique ou d'isolement des athlètes. C'est quelque chose de commun d'abord, ce sentiment de dépression chez les grands champions ?
Alors, je dirais que ça fait partie des risques de ce paysage qui est à la fois magnifique, de ce parcours qui est très beau,
oui.
mais qui est aussi très périlleux. Et un épisode dépressif chez un sportif peut arriver à n'importe quel moment de sa carrière, parce que c'est des personnes qui ont des exigences très élevées vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ont des idéaux très forts, qui grandissent, parce qu'ils commencent en étant enfants la plupart du temps, et qui grandissent avec cette exigence de performance en pleine construction. Donc c'est des constructions particulières, et j'ai connu un numéro 1 mondial qui disait « si j'étais pas numéro 1, j'avais des idées de mort, j'avais envie de mourir ». Et ça, je trouve que c'est important de resituer en fait la réalité psychologique des sportifs qui sont en quête de perfection. C'est un chemin périlleux.
Oui, il y a un cas comme ça d'un grand rugbyman dont on a appris la disparition il y a peu de temps, c'est Christophe Dominici, carrière incroyable, qui est décédé en novembre dernier à 48 ans, qui avait une trajectoire compliquée, un homme torturé aussi, et qui pourtant avait un parcours de rugbyman assez exceptionnel, Stéphane Clèche. C'est vrai que quand on a appris sa disparition, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas les fêlures de l'homme, c'était la stupéfaction.
Une carrière comme la sienne, la carrière d'un sportif en règle générale, c'est gérer des incertitudes pour les rendre les plus stables possibles, c'est-à-dire maintenir son niveau de performance. On est sur un terrain glissant, mouvant, j'ai un peu l'image de Bambi sur la glace quand on est sportif, c'est-à-dire qu'on passe son temps à faire le grand écart, à essayer de stabiliser ce qui a vocation à nous échapper. Et effectivement, c'est épuisant et ça peut entraîner justement ce genre de trouble, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est pathologie le terme, mais dépressif, qui amène effectivement à avoir des idées noires.
Mais vous diriez que c'est lié à l'individu, à la construction personnelle, on n'est pas tous forcément égaux face au succès et aux échecs, ou que c'est lié à la réussite et à l'environnement. Je prends des exemples, Zinedine Zidane, grand sportif qui a toujours réussi à rebondir, qu'on voit de l'extérieur en tout cas, solide comme un roc. Ça a été le cas d'Alain Prost, c'était le cas de nombreux sportifs. Pierce, par exemple, en tennis, Raphaël Nadal, même si aujourd'hui il est au sommet de son art. Est-ce que c'est lié à la personnalité, comme il y a des personnalités et des sensibilités qui sont plus sujets à la dépression que d'autres ?
Il y a sans doute des personnalités qui sont plus destinées à ça. Après, ça dépend aussi du parcours sportif, ça dépend aussi de l'environnement. Un joueur comme Nadal, il est encadré, il a tout un staff autour de lui depuis des années.
Ça aide ça. Et qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces joueurs qui vacillent ?
Déjà, moi, dans la photographie, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de sportifs de haut niveau qui ont de gros investissements, qui ne vivent pas de leur art. Et donc, il y a cette difficulté aussi à s'entourer. Tout ça, le staff de Raphaël Nadal, par exemple, ça a un coût. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir cet environnement-là. Et c'est quelque chose c'est un privilège quasiment, un privilège de riche. Je ne sais pas si je peux dire le terme comme ça, mais tous les sportifs ne peuvent pas s'encadrer comme Raphaël Nadal.
En tout cas, un privilège de numéro 1 ou oui, numéro 3 mondial. Oui, oui. Quel conseil vous pourriez donner, Élise Ancar, et quel conseil vous vous donnez à ces sportifs que vous êtes amenés à rencontrer, qui vacillent encore une fois ou qui se sentent mal dans leur basket?
En fait, ça se régule tout au long du parcours. Hein, c'est-à-dire que c'est important de voir la dimension dynamique de la personnalité globale, son environnement. Oui. La sensibilité aussi, effectivement, elle est importante. Hein, quelle personnalité on a à faire. Et c'est vrai que le bilan psychologique, qui est une spécificité française, qui est mise en place à l'INSEP, évidemment, en fait, vient en complémentarité d'un suivi quand même régulier, hein, de peut-être une éducation émotionnelle auprès des plus jeunes, pour aussi travailler sur la connaissance de soi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en perspective, c'est-à-dire tout au long du parcours, de suivre l'évolution des sportifs, en fait.
Oui. Bien, merci. On est contraint de s'arrêter. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange dans le Club des Idées, toujours ici en direct de Roland-Garros. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va marquer une courte pause, 19h37, et on va parler des grands champions du jour qui, eux, vont bien ou ont perdu, parce qu'il y a quand même eu des défaites aujourd'hui. Mais en tout cas, les deux grands favoris, Djokovic et Nadal, sont plutôt bien partis pour continuer dans la compétition ici à Roland-Garros. Service Pioline dans quelques secondes avec Cédric Pioline et Corinne Boulou, à tout de suite.
Roland Garros 2021. L'événement tennis est sur Europe 1. Service Pioline sur Europe 1. Votre rendez-vous Roland Garros avec Julien Bugier.
Deuxième manche, Musetti. 7 jeux à 6. Musetti mène 2 jeux à 2-7.
Voilà, c'est l'une des images du jour. Djokovic menait 2-7 à 0 cet après-midi. Même l'arbitre avait du mal à le croire. Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir.
Notre consultant pour cette quinzaine ici en direct de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Et bonsoir à vous, notre spécialiste tennis, Corinne Boulou.
Bonsoir Julien.
C'est un plaisir de vous retrouver évidemment pour ce lundi avec plein de choses aujourd'hui dans notre service Pioline. On va parler évidemment des résultats du jour, du match entre Nadal et Sinner qui est en train de se terminer, je vous en dis pas plus. Et puis les indispensables, les insolites, Johanna Chabat qui nous fera découvrir aussi l'un des aspects méconnus, vous verrez, du tournoi. Alors Corinne, tout d'abord, un petit tour d'horizon de cette journée qui marque la fin des huitièmes de finale. Djoko qualifié pour les quarts, ça c'est la surprise du jour.
Oui, un numéro 1 mondial malmené hein, pendant deux manches. À la surprise générale, c'est le jeune Lorenzo Musetti, 76e mondial, pour son premier tournoi en Grand Chelem qui s'est emparé des deux premiers sets au tie-break. Dans le troisième set, Djokovic se réveille, il finit par régler la mire après avoir commis de nombreuses fautes directes dans les deux premiers sets. Musetti est muselé, 6-1 puis 6-0. Le Serbe recolle à deux manches partout. Le jeune Italien de 19 ans demande alors un temps mort médical. Il est touché physiquement et il dira d'ailleurs peu après qu'il était victime de crampes et qu'il avait mal dans le bas du dos. Et à 4-0 pour le numéro 1 mondial, l'Italien jette l'éponge. Novak Djokovic accède donc à son 15e quart de finale à Roland-Garros par KO. On l'écoute, Novak Djokovic, après ce 8e de finale si particulier.
J'aime jouer contre de jeunes joueurs en 5-7 parce que même s'ils ont un set, s'ils mènent 1-0, 2-7 à 0, ce qui a été le cas, j'ai toujours mes chances parce que physiquement, je me sens en forme. Et je sais comment épuiser mon adversaire dans un match en 5-7. J'ai remporté la plupart de ces matchs que j'ai pu disputer durant ma carrière, donc cette expérience m'aide beaucoup. Mais encore une fois, c'est dommage pour lui de finir la rencontre de cette manière, avec cet abandon. Physiquement, je dirais qu'il a eu des difficultés dès le début du quatrième set.
Super match, hein. Très beau match avec une belle entrée en matière de l'Italien. 19 ans seulement, qui a fait trembler le numéro 1 mondial, Cédric Pioline. Alors, est-ce que ce petit passage à vide de Djoko, ça augure des petites faiblesses pour la suite et notamment, évidemment, s'il se retrouve face à Nadal?
Je ne le vois pas forcément de cette manière. Je pense que Musetti l'a vraiment challengé pendant 2-7. D'ailleurs, quand on regarde le déroulé, ça a été 2h40 pour faire 7-6-7-6 et entre 45 et 50 minutes pour faire 6-1-6-0. Donc évidemment, il y a eu il a payé, je dirais, le prix. Il a consommé, si je puis dire, tout son carburant pendant ces deux sets où il a extrêmement bien joué. C'est prometteur. 19 ans, comme vous l'avez dit, c'est son premier tournoi du Grand Chelem. Il est déjà en huitième où il challenge le numéro 1 mondial sur terre battue. C'est quand même costaud. Donc voilà, il a craqué parce que il est pas encore suffisamment au niveau pour aller plus loin.
Alors, on va prendre maintenant des nouvelles du tenant du titre, Rafael Nadal, opposé lui aussi à un jeune Italien de 19 ans, Yannick Sinner. Ils s'étaient affrontés déjà ces deux-là l'an passé en quart de finale. Alors, où en est-on, Axel May ?
Eh bien, on n'est pas loin de la victoire pour Rafael Nadal puisqu'il mène 5-0 dans la troisième et sans doute dernière manche. Il avait remporté les deux premières manches 7-5, 6-3. Il a eu des difficultés dans la première manche comme il en avait eu face à Sinner en quart de finale l'année dernière. L'année dernière, balle de match à l'instant, effectivement, 2h50. Là, on est à 2h15. Et la balle de match pour Rafael Nadal qui va servir. Le public s'est tué, vous l'entendez derrière moi. Nadal qui prend toujours son temps. Voilà, attention, la balle s'élève, il sert. Et c'est dehors. Donc, il aura le droit à une deuxième balle de match. Rafael Nadal face à Yannick Sinner. Et je vous donne une anecdote parce que sans doute qu'on n'aura plus l'occasion d'en parler cette année de l'italien. Oui. Il est du nord-est de l'Italie, autrement dit à la frontière autrichienne. Et il parle allemand mieux qu'italien. Le jeune italien Yannick Sinner et la balle de service qui est passée pour Rafael Nadal, long coup droit qui est un bon retour de Sinner. Sinner qui va tenter de remettre la balle, ça passe, mais il y a toujours Nadal qui fait un balayage et la balle qui sort. Donc encore une occasion pour Sinner de durer un peu plus longtemps sur le court, mais voilà, c'est quand même bien mal parti pour Sinner face à Rafael Nadal.
Merci Axel, on va garder un œil effectivement sur le match. Il y a peu de doutes sur l'issue du match, Cédric Pioli.
Voire aucune, mais c'est vrai que, en tout cas, Sinner progresse, même si quelque part il prend c'est pas tout à fait fini, mais enfin à 5-0 dans la troisième manche, c'est pas loin. Un score un peu plus sec que finalement l'an passé où il avait été peut-être mieux défendu ses chances, mais en tout cas, ce jeune Italien progresse et c'est sûr qu'il fait partie de la relève, même si il n'est pas encore au niveau des Tsitsipas, mais rappelons qu'il a quand même 3-4 ans de moins, donc ça compte énormément.
Bien, nouvelle balle de match pour Rafael Nadal. On va garder un œil évidemment sur le central, Corinne Boulou.
Avec les autres résultats du jour, eh bien le vainqueur justement, probablement Rafael Nadal, hein, qui est en train de servir pour le match, eh bien sera opposé à l'Argentin Schwartzmann, le demi-finaliste de l'an passé. S'est qualifié sans trop de difficultés en 3-7 face
et voilà,
à l'Allemand Strumpf. Eh bien donc nous aurons un quart de finale Schwartzmann-Nadal. C'était l'affiche d'une demi-finale l'an passé. Dans le tableau féminin, la Benjamine Coco Gauff s'offre un premier quart de finale en Grand Chelem à 17 ans. Son adversaire du jour, la Tunisienne Ons Jabeur, reconnaît que la jeune américaine est impressionnante.
Elle a beaucoup de qualités, je dirais tennistiquement. Je commence par son service, qu'elle sert bien, elle sait bien gérer son coup droit et elle met beaucoup de pression avec son coup droit. Elle fait plus de fautes avec, elle est plus constante avec son revers. Et voilà, athlétiquement, voilà, c'est une joueuse qui court partout, qu'elle est là, qu'elle est présente et ça se voit qu'elle veut tout gagner et ne veut pas lâcher un point. Et c'est ce qui fait sa force sur le terrain. C'est une joueuse que vraiment j'admire beaucoup et je vois un très, très beau parcours pour les prochaines années.
Ah oui, 17 ans, hein, 17 ans, Coco Gauff, la relève du tennis féminin américain. Une autre américaine finaliste l'an passé, Sofia Kenin, disparaît, elle, du tableau. Éliminée en 2-7 par la grecque Maria Sakkari, 18e mondiale, qui à 25 ans s'offre, elle aussi, un premier quart de finale en Grand Chelem. Les Grecs ont deux joueurs, Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, en quart de finale de Roland-Garros.
On aimerait en avoir de nous aussi, hein, côté français.
Mais... Ok, oui.
On verra ça l'an prochain. On marque une pause, 19h46, on se retrouve dans quelques secondes. Cédric Pioline continue sur Europe 1, tout de suite. Avantage
Europe 1. Service Pioline.
Et la suite de Service Pioline, toujours ici en direct de Roland-Garros, avec cette deuxième partie. Dans un instant, l'œil de Johanna sur les à côté du tournoi, les essentiels, la question pour la gratter aussi à Cédric Pioline, comme tous les jours. Mais on commence d'abord, Corinne, avec cette info insolite.
Oui, saviez-vous qu'un match, en l'occurrence une finale, peut se jouer dans les vestiaires? Si la France attend depuis 1983 un successeur à Yannick Noah, dernier vainqueur français à Roland-Garros, faut-il encore le préciser? Eh bien, sachez que l'Italie patiente depuis plus longtemps pour trouver un successeur à Adriano Panatta, vainqueur en 1976. Et cette anecdote, c'est Cédric qui me l'a soufflé. Avant de disputer leur finale, Adriano Panatta et l'Américain Harold Solomon se préparent dans les vestiaires. Un contentieux les a opposés au tournoi de Rome avant Roland-Garros. Sur un point litigieux rendu à l'Italien, l'Américain considère qu'il a été volé et quitte carrément le court. Panatta, qui venait de rendre plusieurs points à son adversaire, est furieux du comportement irrespectueux de Solomon. Leurs retrouvailles à Paris dans les vestiaires du cours central sont fraîches. C'est le moment où Adriano Panatta enfonce le clou. Il rejoint dans les toilettes Solomon, qu'il sait seul, sans son équipe autour de lui à ce moment-là, et lui lâche chambreur. « Mais comment est-ce que tu pourrais me battre? Tu es tellement petit !» une phrase à double sens, puisque Solomon était effectivement un joueur de petite taille, mais surtout, son attitude à Rome avait fortement déplu à Panatta. L'Italien s'impose le 13 juin 1976 à Roland-Garros. Harold Solomon, lui, n'atteindra plus jamais de finale en Grand Chelem.
Ça arrive, ça, souvent, Cédric, on roule les mécaniques dans les vestiaires pour essayer de s'impressionner, comme avant un match de boxe.
Souvent, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a... Je pense que c'était quelque chose qui était...
On imagine les tennismen et les tenniswomen comme des gentlemen dans les vestiaires. Il y a un côté...
Oui, il y a un match psychologique. Ça chambre, ça se chauffe. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être un petit peu disparu. C'était plus, alors là on est dans les années 70, 80, 90 lorsque j'ai joué, et de ce que j'ai entendu, ça a quand même tendance à disparaître. Mais c'est vrai que ça peut avoir un vrai impact dans ce cas précis que vient de raconter Corinne. Il faut imaginer Panatta, le playboy italien qui faisait, ou enfin qui fait d'ailleurs, parce qu'il est toujours parmi nous, 1m90, et Solomon qui n'était pas playboy, on va dire, dans le faciès, et qui devait mesurer 1m60 quelque chose. Donc oui, il l'a attaqué là où ça fait mal, d'autant plus qu'il y avait eu ce contentieux précédemment, enfin le tournoi précédent Roland-Garros.
Oui, une petite déstabilisation psychologique avant de rentrer sur le court.
Prendre l'avantage.
Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Allez, changement de côté. Balle neuve, comme l'on dit, pour le regard de Johanna Chabas sur Roland-Garros. Bonsoir, Johanna.
Bonsoir.
Alors ce soir, pour votre mission découverte, derrière tous ces résultats que vous voyez sur un court ou sur les grands écrans qui bordent les allées de Roland-Garros, il y a des femmes et des hommes, et rien ne leur échappe, Johanna.
Effectivement, et on les appelle les marqueurs. Ils sont installés juste derrière l'arbitre avec deux mini-ordinateurs, des tablettes, et ils sont chargés pendant tout le match de noter qui remporte le point, la vitesse du service, si le joueur a gagné avec un coup droit, un revers, si c'est une faute directe ou provoquée. Ils ont 2-3 secondes maximum pour remplir toutes ces informations et qu'elles soient affichées pile au moment où l'arbitre annonce le score, et ils n'ont pas le droit de se tromper. Ces statistiques servent pour les paris sportifs, donc une erreur aurait des conséquences très lourdes économiquement. Pour Noémie qui fait ça pour la première fois cette année, c'est donc beaucoup de pression.
Au début, j'avais mon téléphone à côté et je disais, alors ce joueur-là, il a la casquette blanche, il a la tenue de telle couleur, et comme ça, avant de mettre le score qui avait bien gagné le point, je vérifiais, comme ça je savais que je pouvais pas trop faire d'erreur. J'ai pas encore fait d'erreur, je touche du bois.
Ah bah oui, on imagine, il ne faut pas faire d'erreur parce que l'impact peut être énorme. Ils n'ont pas le temps de regarder le match et de profiter, ces marqueurs, Cédric.
Eh bien, ils me le disent tous, le plus dur, c'est de rester concentré parce qu'il faut suivre tout le temps la balle, ne pas perdre le fil du match. C'est tellement intense qu'ils travaillent souvent une heure avant de devoir être relayés. Mais pour Philippe, qui fait ça depuis 32 ans, c'est une heure de rêve aussi.
On suit le match comme un arbitre, hein. On suit tous les échanges, donc on est vraiment spectateur du premier rang, hein. C'est une chance inouïe pour nous d'y être. On est les mieux placés quasiment sur le court. J'avais 22 ans quand je suis venu ici pour la première année, j'en ai 54, j'ai pas changé, comme les yeux d'un gamin, quoi.
Voilà, ça c'est Johanna qui a répondu. Allez-y, Johanna.
Ben justement, Philippe, lui, avec son expérience, a pu travailler et donc profiter de deux finales de Roland-Garros, rien que ça.
Alors ça, c'est pour la partie officielle. Évidemment, ils ne vont pas dire l'inverse. Mais est-ce qu'en réalité, c'est vrai qu'ils regardent un peu quand même ce qui se passe sur le court pour essayer de profiter du spectacle ou pas?
Ah ben, ils regardent totalement. En fait, ils regardent, sauf qu'ils sont en train de... En regardant, ils travaillent. Et ils doivent sans arrêt... lorsque le service est faux ou il y a un ace, ils doivent cocher. La tablette, pour le coup, c'est plus à la main, j'imagine, comme à l'époque, et remplir les cases. Mais c'est vrai qu'il faut être, pour le coup, très concentré parce que, comme Johanna vient de le dire, ça va très vite.
Est-ce que les joueurs, ils savent toujours où ils en sont dans le cours d'un match?
Dans le cours d'un match...
Est-ce qu'on disait que Fabien Barthez, en équipe de France, des fois, il oubliait le score, il ne savait même plus si son équipe, la France, était en tête ou pas. Est-ce que c'est pareil pour les joueurs de tennis?
Non,
quand on est dans le quatrième set, en double tie-break, est-ce que de temps en temps, on ne sait plus où on en est? On est obligé de regarder le tableau d'affichage.
Quand on en est là, c'est vrai que ça veut dire qu'on est probablement sorti du match et que normalement on a vraiment le score à l'esprit, on sait toujours où on en est, et on n'a évidemment pas les statistiques précises, ouais. Mais on sait qu'aujourd'hui on sert bien, que tel schéma fonctionne bien, qu'on est bien à la volée, et ainsi de suite.
Allez, la question poil à gratter, Corinne, du jour.
Rapidement, que se passe-t-il dans le tennis féminin mondial? Plus qu'une top 10 Dans le tableau, c'est Iga Świątek, la tenante du titre, que l'on verra tout à l'heure, puisque l'américaine Kenin a été éliminée. Et dans les quarts de finale, pour le moment, la meilleure joueuse, elle est 15e mondiale. Il n'y en a qu'une seule qui a déjà disputé un quart de finale en Grand Chelem. Donc, c'est très, très indécis ce tableau. C'est assez étonnant.
Indécis, mais pas surprenant, parce qu'on sait que c'est un peu plus ouvert chez les femmes que chez les hommes, surtout à Roland-Garros. Il n'y a plus vraiment de dominante. Alep qui n'a pas joué cette année. Williams qui est vieillissante. Donc finalement, la Polonaise.
Barty blessé, qui a abandonné.
Oui.
Naomi Osaka.
Voilà. Donc du coup, ça a vraiment ouvert le tableau et c'est une belle opportunité pour la Polonaise pour défendre son titre ici à Paris.
Bien. Merci les amis, merci Cédric Pioline, merci Corinne, merci Johanna. On se retrouve demain évidemment, même lieu, même heure, pour Service Pioline. 19h56 dans quelques secondes, le rappel de l'info, Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut ma chère Émilie.
Salut Julien.
Comment ça va ce soir?
Ça va super bien. Je suis toujours un peu jalouse que vous soyez à Roland-Garros, mais ça va. Je vis avec.
Quel est le programme de
ton
émission?
Vous serez peut-être jaloux aussi, tiens.
Ah, dis-nous
mais
tout.
Oui. Eh bien, ce soir, je reçois Charline Spiteri, la chanteuse du groupe Texas. Puisque le nouvel album de Texas qui s'appelle High vient de sortir, donc elle va nous en parler, puis chanter aussi, évidemment.
Il y a Corinne Boulou qui est super jalouse, là, qui aimerait bien être avec toi.
Viens Corinne, viens.
Elle arrive, elle part en courant. Merci Émilie, à tout de suite évidemment. Merci. Pour musique, le rappel de l'info, Julien Pierce, à demain. Merci de votre fidélité, 18h.